Je vous invite à lire une parole dans l'Écriture, son prophète Jérémie, chapitre 29 du prophète Jérémie, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous sommes aussi en captivité dans ce monde et nous voulons prier. Nous voulons prier pour la cité, pour le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous travaillons. Car dans un sens, il est vrai que notre bonheur dépend du sien. Et nous voulons te remercier, notre Dieu, de ce que nous pouvons contribuer au bonheur de notre prochain, en apportant, en transmettant l'évangile que tu nous as confié. Seigneur, montre-nous par quelles voies et moyens nous pouvons le mieux te servir et servir notre prochain, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous avoue que j'ai un grand morceau devant moi. Et je pense que je devrais tout à l'heure un petit peu couper par-ci, par-là, pour ne pas être plus long que d'habitude. L'éthique politique, c'est un sujet important, surtout quand on tient compte du fait que politique, nous l'entendons dans le sens le plus large. Politique, politikos, vient de poli, qui n'a rien à faire avec la politesse, à vrai dire, mais avec la cité. Poli veut dire cité. Donc politique, pratiquement, ça veut dire tout ce qui touche à la vie civique, à la vie du citoyen, tout ce qui concerne l'homme en société. Vous savez certainement que il y a cette doctrine, comme on l'appelle, des deux règnes, des deux cités, des deux ordres. Le chrétien est citoyen de deux cités, a dit quelqu'un. Il a la tête au ciel et les pieds sur la terre. Le règne spirituel et le règne temporel, la cité de Dieu, d'Augustin et de Calvin, de Luther, qui ont repris cette pensée. La cité de l'homme et la cité de Dieu. Être citoyen de deux royaumes, ça ne doit pas être chose facile. Car il ne faudrait pas que nous ayons une double morale du fait d'être citoyen de deux royaumes. On raconte qu'un prince, qui était en même temps évêque, comme c'était le cas autrefois, était allé le dimanche à la chasse. Et un petit paysan qui le rencontra lui dit, étonné, « Monseigneur, comment donc pouvez-vous aller le dimanche à la chasse ?» Et l'évêque de lui répondre, « Ce n'est pas l'évêque qui va à la chasse, mais le prince. » Et sur quoi le paysan répliqua après réflexion, « Mais où restera l'évêque quand le prince ira en enfer ?» Le chrétien doit donc être chrétien, agir comme chrétien dans tous les domaines de la vie. Et cela pose des problèmes d'éthique et provoque des attitudes différentes ou des réactions différentes dans la vie de l'enfant de Dieu. Dans le livre Évangile et politique, qui se trouve quelque part ici, il est dit que le pasteur et le gendarme sont les deux piliers de la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le chrétien face au règne temporel. Là, je vais couper un petit peu déjà, car nous avons déjà vu ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, au 13e chapitre, que j'avais un peu développé là, mais je crois notre frère nous en a déjà parlé tout à l'heure. Bien sûr que devant le règne temporel, le chrétien doit être soumis aux autorités parce qu'elles sont de Dieu, parce que le magistrat lui-même est serviteur de Dieu et ne porte pas l'épée en vain, nous l'avons vu tout à l'heure. Et pourquoi donc devons-nous être soumis aux autorités, prier pour les autorités, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 1 à 2, 1 Pierre 2, 13 à 14. Il y a bien sûr le refus d'obéir, sur lequel je crois nous n'avons pas dit, ou nous n'avons rien dit encore. Quand les autorités exigent ce que la conscience éclairée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit ne peut accepter, alors je crois qu'il est du devoir du chrétien de ne pas écouter, de ne pas se soumettre aux autorités. Mais l'autorité ou les autorités sont devenues nécessaires dans une humanité qui a rejeté l'autorité de Dieu. Nous n'aurions pas eu besoin de roi, nous n'aurions pas eu besoin d'autorité autre que celle de Dieu si l'homme n'avait pas rejeté cette autorité. Mais quand la politique devient tyrannie, alors évidemment, il y a un problème pour le chrétien. On dit politique sans éthique et cynique. Comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a devant le monde, devant les autorités, devant la vie, différentes positions possibles. Il y a celle du repli total, le ghetto. C'est une attitude qu'ont adoptée certains chrétiens, parce qu'ils ont dit que la cité, dans le sens très, très général, a été sécularisée. Elle se veut laïque, sans religion, sans Dieu. Et puis, bien sûr, ils se réfèrent aussi à l'Écriture en disant que Jésus a déclaré « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et que mon royaume n'est pas de ce monde. Vous connaissez ces passages, Jean 18, 36, Matthieu 22, 21. Le monde est mauvais. En politique, il y a des partis pris. Il y a des intrigues. Il y a le mensonge électoral, puisque nous parlions tout à l'heure du mensonge de Rahab. Le chrétien ne peut pas ou ne peut que s'abstenir, disent certains, s'il veut conserver une bonne conscience. On ne peut pas changer la société. C'est l'individu qui doit changer. Mais comme cela ne peut pas se faire sur une échelle très, très grande, il vaut mieux se retirer, se replier. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Apocalypse 18, 4. C'est le non-engagement, ou c'est le désengagement. J'ai reçu une brochure, une série de traités d'un certain Joachim Krauss d'Allemagne, que j'ai lu et qui m'ont étonné. Ce chrétien, car c'en est un, sans aucun doute, s'est débarrassé de tout ce qui lui est apparu comme mondain ou charnel, c'est-à-dire de collections de timbres et de monnaies, de photos de souvenirs d'enfance, de fossiles, d'un appareil de photo, d'un cassettophone, de jumelles. J'en ai vu hier des jumelles. Et il l'a fait en s'appuyant sur la parole de Dieu, bien entendu, car Matthieu 6, verset 19, nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Il rejette la démocratie, pouvoir du peuple, donc majorité, en disant que le premier vote démocratique dans le Nouveau Testament a eu lieu quand le peuple s'écria « Crucifie-le ». C'est des arguments, bien entendu, que nous interprétons autrement, avec d'autres règles d'interprétation. Pas de participation aux votations. Et à ce propos, pas à ce propos, Courtial n'a pas lu ces traités que j'ai lus, mais je relève une parole de Pierre Courtial qui dit « Le repliement piétiste facilite la sécularisation, c'est un défaitisme qui abandonne sans combat le terrain à l'adversaire. » C'est dans le fondement de la foi, fondement pour la vie. C'est un défaitisme qui abandonne sans combat le terrain à l'adversaire. Mais c'est une position que certains chrétiens évangéliques ont adoptée ou adoptent encore. Et je pense qu'il est bon de le mentionner. Il y a une autre option, l'option pacifiste, l'éthique d'amour et de non-violence que l'on retrouve chez certains ménonites. Je dis certains parce qu'il y a aussi d'autres tendances maintenant chez les ménonites. Ici, on refuse donc de recourir à la violence. On est objecteur de conscience. On est non-résistant, car il est écrit « Tu ne tueras pas ». Donc, pas de peine de mort. Mais nous pensons, nous l'avons vu déjà, que la peine de mort en Israël n'était pas en contradiction avec le décalogue, pas plus que les guerres que menait Israël contre ses ennemis. Et j'ai lu à ce propos dans Le Chrétien, l'État et la politique du pasteur Roger Barillier de Lausanne, quelque chose qui est fort intéressant. Il dit que en hébreu, il y a deux mots pour exprimer l'idée de tuer. Tuer à la guerre et tuer par vengeance personnelle. Et c'est le deuxième mot qui donc a le sens d'assassinat qui est employé dans le sixième commandement, tu ne tueras pas. Notre frère pourra peut-être nous le confirmer ou l'infirmer. C'est juste. Vouloir appliquer pourrait conduire à un certain illuminisme ou à l'anarchie. Quelqu'un a dit que dans le monde, il y a des loups en grand nombre et un petit troupeau d'agneaux, comme celui que nous avons vu presque naître hier, et qu'on ne peut pas appliquer aux loups les lois qui règnent parmi les agneaux. Il est vrai que le chrétien doit être pacifique, plein de douceur envers tous les hommes, Tite 3, 1. Il est vrai qu'il doit souffrir plutôt qu'avec injustice, 1 Corinthiens 6, 7, que de se venger lui-même, Romains 12, 19, tout en étant toujours prêt à se défendre avec douceur et respect, 1 Pierre 3, 15, en ce qui concerne le domaine de la foi, de la vie chrétienne ou de l'éthique chrétienne ou de la doctrine biblique. Mais en politique ou sur le plan civique, dans la société, il faut bien user des lois et des contraintes et des sanctions, en un mot, de la force, si l'on veut éviter l'anarchie, c'est-à-dire la loi de la jungle. Si l'on veut lutter contre le gangstérisme, la tyrannie, le despotisme, l'hégémonie, c'est-à-dire qu'il semble que, il me semble que la police et l'armée sont devenues malheureusement indispensables dans ce monde corrompu pour éviter l'autodestruction du monde et de l'humanité. Le mal est là. Il faut des digues pour le contenir. Ceci dit, je comprends les objecteurs de conscience qui ne peuvent pas se représenter Jésus-Christ en uniforme, établir ou rétablir l'ordre avec une mitrailleuse sous le bras, qui ne peuvent pas admettre que des chrétiens de deux pays belligérants s'entretuent, ni même qu'un chrétien tue son prochain, voire son ennemi, ou qu'un non-chrétien le fasse. Il y a là aussi quelque chose à débattre peut-être tout à l'heure. Quand on pense tout le mal qui s'est fait, quand on pense aux nombreux morts des guerres, de la dernière guerre et de l'avant-dernière guerre, les deux grandes guerres mondiales, cet été, nous avons passé à Verdun et nous avons vu l'ossuaire de Douaumont qui a été dressé en souvenir de 400 000 soldats français tombés pour défendre Verdun en 1914-18. Ce sont des choses horribles, sans parler des millions qui sont morts pendant la guerre, juifs et non-juifs, comme vous le savez. Et puis les juifs se sont soulevés contre les Romains et ils ont été massacrés, dispersés en l'an 70 de notre ère. Et les chrétiens, ne se sont pas soulevés. Et ils ont transformé la société. Je relève ce que dit Alfred Kuhn dans un article qui est apparu dans Ictus numéro 3, 85. Les chrétiens des trois premiers siècles étaient en butte aux mêmes difficultés que les évangéliques aujourd'hui, dit-il. Ils étaient minoritaires, méprisés, calomniés, souvent même ouvertement persécutés. Or, c'est durant cette période qu'ils ont conquis le monde antique. À partir du moment où ils ont gagné la popularité, la faveur des autorités et l'aisance matérielle, ils ont décliné. Le monde a conquis l'Église. Ce sont des choses qui devraient nous faire réfléchir. Au congrès mondial mennonite de l'année passée à Strasbourg, il y avait un certain Ron Sider, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom, en deux mots, Ron Sider, S-I-D-E-R, R-O-N, Ron, qui préconisa la levée ou de lever des forces non violentes pour s'interposer entre les belligérants. Des milliers, voire 100 000 personnes devraient, selon lui, se tenir pacifiquement entre les parties en guerre, en Amérique centrale, en Irlande du Nord, en Afrique du Sud, en Afghanistan, prêtes à se faire massacrer. Pardon ? Ce qui ne manquerait pas, mais je pense qu'il y aurait un effet salutaire pour dans le monde entier. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu, je cite Romains 5, hein, qu'il n'y a pas de paix dans le monde sans la paix avec Dieu. Et je crains que l'homme, et parfois même les chrétiens et des chrétiens évangéliques, ont quand même cette idée, cette notion, cette volonté d'établir un règne de paix sur la terre avant que le Seigneur ne revienne. Et je crois que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu et à la parole prophétique tout particulièrement. Dietrich Bonhoeffer, qui a participé activement à la résistance contre Hitler, a dit « Si un homme ivre roule le long du Kurfürstendamm, donc d'une allée, d'une avenue à Berlin, au volant d'une voiture, il ne suffirait pas d'enterrer les victimes et de consoler leur famille. Il s'agit d'arracher le volant à l'homme ivre. » C'est violent, c'est pas violent. D'arracher le volant, ou d'arracher l'homme au volant, l'homme ivre. Donc même ce résistant, qui est mort, comme vous le savez certainement, n'a pas caché cette pensée qu'il faut, dans certains cas, être violent. Nous pourrons en discuter tout à l'heure. Tout en étant pour la non-violence, en tant qu'enfant de Dieu, faut-il admettre qu'il peut y avoir des situations critiques, exceptionnelles, où le chrétien serait autorisé à employer la violence? Voilà ce que moi, je vous demande. Il y a aussi maintenant l'engagement politique. C'est une autre option encore. De ceux qui diront que oui, bien sûr, dans l'Église primitive, et du temps de Jésus-Christ, on n'a pas fait de politique. D'ailleurs, on ne pouvait pas voter comme aujourd'hui. Il y a pourtant eu un parti de patriotes juifs créé, semble-t-il, par Judas le Galiléen pour résister aux Romains, comme il y a eu les Esséniens qui s'étaient retirés à Qumran, puis à Masada, pour y attendre la venue du Messie. Il y a eu, même si l'Écriture n'en parle pas beaucoup, ce qu'on appelle les zélotes, considérés comme extrémistes pharisiens, qui ont provoqué des soulèvements, des rébellions contre l'oppresseur étranger. Ils s'emparèrent de Jérusalem, du temple, ils furent assiégés par les Romains, et ils périrent misérablement en l'an 70, par l'arrivée de Titus et de toute son armée qui devait détruire et la ville et le temple de Jérusalem. Mais je l'ai dit avant, je le rappelle encore une fois, c'est important, la petite communauté chrétienne de Jérusalem s'était enfuie à Pella et a échappé à l'exterminateur. Cela veut dire que les chrétiens primitifs n'ont pas été des résistants violents. Et ce n'est que l'adhésion de Constantin au christianisme qui changea la situation. En 313, l'union de l'Église avec l'État. C'est à partir de là qu'il y eut cette alliance de l'État, du trône et de l'Église, ou trône et autel, comme on dit. Collusion de l'Église avec le pouvoir. Mais ça donnait quoi? Les croisades, l'Inquisition, les rois intronisés ou destitués par les papes, voire excommuniés parfois, les papes soumis aux empereurs et destitués par eux, parfois. Tout cela n'était pas conforme, nous semble-t-il, à la pensée de Jésus-Christ et des apôtres. La réforme est venue. Elle a maintenu le principe de l'État constantinien. Et bien sûr, il y a eu les églises dissidentes, libres, piétistes et autres, qui ont été pour la séparation de l'État et de l'Église. Tandis que les églises officielles demeurèrent liées à l'État, même financièrement et jusqu'à nos jours dans certains pays ou cantons. Et voilà que il y a toujours à nouveau cet engagement politique. On n'a plus pu séparer vraiment les deux pouvoirs. Le Conseil œcuménique a proclamé le devoir de l'Église chrétienne de lutter pour la libération des hommes et des peuples et a créé un fonds spécial de lutte contre le racisme. Un demi-million de dollars ont été, au début et d'autres depuis, distribués à des mouvements révolutionnaires terroristes, tandis qu'on n'a rien fait pour les chrétiens persécutés en Union soviétique. Le document « L'Église et pouvoir » qui a été produit par la Fédération protestante de France il y a déjà 14 ans, je crois, préconisa également l'entrée, l'engagement politique, la lutte pour la justice et la contribution à l'établissement de la paix international. On voulait améliorer le bien-être économique et politique des groupes exploités. Lutte contre les injustices sociales, le racisme, contre l'apartheid, etc. Et puis contre la pollution de l'air et de l'eau, l'écologie, contre la civilisation technologique. Les intentions peuvent être bonnes, nous n'avons pas les critiquer, mais il faut reconnaître que pour beaucoup de ces mouvements, le salut est devenu libération politique et bien-être social. C'est la nouvelle théologie de la libération. Et l'on prêche la subversion. Et l'on soutient la violence pour y parvenir. C'est une théologie qu'on appelle théologie horizontale. Dans Église et pouvoir, on dit, entre autres, que l'attente de l'autre monde, meilleur, implique un effort incessant pour rendre ce monde autre. Vous voyez le jeu de mots. L'attente de l'autre monde, rendre ce monde autre. Voilà le salut aujourd'hui, le thème de la conférence du Conseil œcuménique de Bangkok en 1972-73, où Émile Castro, alors directeur de la Commission pour la mission et l'évangélisation, maintenant depuis cette année secrétaire général du Conseil œcuménique, a déjà préconisé la réalisation d'une communauté mondiale débarrassée de toute discrimination de race, de classe, de religion et de système politique et dirigée par un gouvernement unique. Voilà jusqu'où sont allés les hommes politiques qui parlait au nom de la chrétienté. Jürgen Moltmann, autre théologien, lors du congrès mondial eucharistique de Melbourne, un des responsables de la conférence de Bangkok, œcuménique, a dit, un gouvernement universel pourrait être réalisé à travers une église universelle. Il est bon de savoir cela et de s'en souvenir. Ainsi, la tâche prioritaire des églises est mise au rencard. Je me réfère à Philippiens 2,15, qui nous rappelle que nous devons briller comme des flambeaux dans un monde corrompu. Eh bien, je dis que cette tâche prioritaire a été oubliée. On confond réconciliation avec Dieu et réconciliation entre les hommes. Quand on parle de réconciliation, on voit que une réconciliation entre les hommes. Voyez, écoutez les discours du pape actuel, beaucoup plus politiques et moraux parfois, éthiques, que spirituels et bibliques. Il ne prêche pas l'évangile au monde, lui qui touche pourtant, on peut dire, le monde entier par les discours qu'il fait publiquement, retransmis par les radios et les télés. Il prêche les droits de l'homme, que l'Église romaine a longtemps bafoué d'ailleurs. Il prêche l'anti-apartheid, il prêche contre l'avortement, contre le divorce, et autre chose encore. Il prêche des choses avec lesquelles nous sommes souvent d'accord sur le plan purement moral ou éthique. Mais il ne prêche pas la repentance et la foi. Et en cela, il rejoint tout à fait la tendance écuménique des protestants. On veut transculturer la Bible. On parle d'exégèse contextuelle, où il ne s'agit plus du contexte biblique comme notre frère nous l'a enseigné, mais où il s'agit plutôt du contexte social, culturel, dans lequel nous vivons, et où il s'agit moins de savoir ce que dit le texte biblique que de savoir ou de comprendre ce qu'il me dit. Nous voulons quand même nous demander, mais du point de vue biblique, que pouvons-nous faire dans ce contexte général, politique et social de notre époque? Que pouvons-nous faire? Que dit l'Écriture? Que nous demande l'Écriture? Eh bien, je dirais d'abord que le chrétien est sel et lumière ici dans ce monde. Ne nous lassons pas de faire le bien, dit l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le bien envers tous les hommes, et surtout envers les frères dans la foi, Galates, chapitre 6, verset 10. Et le bien même à l'égard de ceux qui nous haïssent. Recherche le bien de la ville, de la cité, du pays dans lequel Dieu nous a établis. Une foi vivante nous conduit à l'action en faveur des déshérités, des malades, des étrangers, des prisonniers, des drogués. On en a parlé ce matin. Et la preuve est faite que plusieurs d'entre vous qui ont des contacts avec des drogués, pour ne citer que ceux-là, ont eu à cœur, ont ce fardeau de faire quelque chose pour eux. Et nous devons chercher, trouver les meilleurs moyens pour les aider. Le chrétien est animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont toujours en Jésus-Christ. Et il cherche à faire régner ici-bas déjà un peu plus de justice et de bien-être par les moyens dont il peut disposer, par les dons que Dieu lui a confiés. Ce sont, à mon avis, des implications de l'Évangile. Je rappelle Matthieu, chapitre 25. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, etc. Je rappelle l'histoire du bon samaritain qui nous montre qui est notre prochain. Pas seulement le frère bien-aimé avec qui je me retrouve régulièrement tous les dimanches et plusieurs fois pendant la semaine, mais l'homme inconnu, l'homme souffrant que je rencontre sur mon chemin. Et alors, je ne fais pas ce que tout à l'heure on a évoqué, ou ce matin, je ne vais pas sur l'autre trottoir, comme l'histoire nous montre
que cela a été fait par ces deux témoins religieux qui ont rencontré l'homme avant que ne survienne le bon samaritain. Jésus a secouru les corps et les âmes. L'évangile n'est pas quelque chose de désincarné. Et le chrétien n'est pas quelqu'un de désincarné. Jésus-Christ n'a pas fait de démarche politique, que je sache, de pétition. Il n'a pas soulevé les foules, provoqué des séditions. Alors que cela se faisait, je l'ai déjà dit, à l'époque de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Barabbas. Les chrétiens n'avaient pas le droit de vote à l'époque pour intervenir dans les affaires publiques. Mais ils avaient le droit de vivre comme des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue. Jésus n'a pas lutté contre pour l'abolition de l'esclavage ou contre l'occupant romain. Il ne s'est pas mis du côté des zélotes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, ni du côté des juifs collaborateurs, péagés, collaborer avec l'occupant romain. Mais il a su, par des paroles, parfois même dures, à l'adresse des chefs religieux et politiques de son peuple, transmettre, faire apparaître ce qui est éthique, ce qui est moral, ce qui est juste devant Dieu. Il a appelé Hérode ce renard. C'était peut-être pas très beau, pas très poli, mais il l'a fait. Luc 13, 32. Il lui a dit, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Marc 6, 18. Je parle maintenant de Jean-Baptiste. Il a traité les scribes et les pharisiens d'hypocrites et de conducteurs aveugles et insensés. Jésus-Christ, de sépulcre blanchi, de serpent, de race de vipère. Et une fois, il a même été jusqu'à chasser les vendeurs du temple avec un fouet qu'il avait lui-même confectionné. Il était non violent, et pourtant. Nous pensons toutefois que, par cet acte que Jésus-Christ a accompli, nous ne pourrions pas justifier nos actes violents. Si nous sommes fidèles au Seigneur, nous constituons un reproche permanent à l'adresse de ceux qui vivent dans la corruption. J'ai lu dernièrement un feuillet de calendrier où il est raconté qu'un pasteur se retrouva en rêve dans une boutique dont le comptoir était occupé par un ange. Et en entrant, il demanda, « Que vend-on ici ?»« Nous vendons tout ce que votre cœur désire, » répondit l'ange. « Alors, je voudrais la paix dans le monde, et le réveil dans l'Église, et la fin des haines, et des famines, et des maladies. » Vous voulez communiquer quelque chose ?
Non, non, dis justement.
Voilà. Voilà ce que je voudrais, a-t-il dit. Si vous pouvez me le donner. Et l'ange intervint pour dire, je crois que vous n'avez pas bien compris, que vous ne m'avez pas bien compris. Ici, nous ne vendons pas les fruits. Nous ne vendons que les semences. Je pense que vous avez compris. Il faut acheter la semence. Il faut la semer. Les fruits tout prêts, on ne les vend pas. Et c'est nous qui sommes les semeurs. Nous qui devons répandre cette vérité, les vérités doctrinales, les vérités éthiques. Par tous les moyens, nous devons les faire connaître aux gens au milieu desquels nous vivons, aux chrétiens et aux gens du monde. Évidemment, nous pouvons profiter de toutes les possibilités légales qui nous sont offertes pour porter remède à l'injustice dans les conflits judiciaires, administratifs, dans tous les cas où la conscience chrétienne est gravement offensée. Même Paul l'a fait appel au tribunal de César. Il a usé des moyens dont il pouvait disposer. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Nous pouvons exercer une influence bénéfique sur le monde par notre témoignage vécu et parlé, par notre style de vie, par notre éthique, en un mot, par notre comportement, par le bien que nous faisons et la résistance que nous opposons à la corruption et au mal. Le sel agit du dedans, la lumière agit du dehors. Pourvu que le sel ne soit pas devenu feinte et que la lumière ne soit pas mise sous le boisseau, c'est là l'important. C'est là où nous devons veiller à la qualité de notre lumière et à la qualité de notre sel. Oui, on nous dit que Jésus-Christ a eu compassion des hommes et de l'homme tout entier, qu'il a fait du bien au corps et à l'âme, quoiqu'il n'ait touché qu'un nombre limité de personnes, c'est vrai. Eh bien, c'est déjà là, je crois, notre témoignage d'enfant de Dieu, de répandre la bonne odeur de Jésus-Christ dans ce monde, par tous les moyens honnêtes, légaux, que nous avons, que nous possédons. Mais il y a autre chose encore, et là aussi nous pourrions nous entretenir plus tard. Il y a l'établissement d'un ordre public conforme à la loi divine. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas très connu et très courant dans les milieux évangéliques. Et c'est un point de vue que peut-être nos frères anglophones ont davantage étudié que nous. C'est un point de vue qui est défendu par notre frère Jean-Marc Berthoux dans le mouvement, l'association des parents chrétiens vaudois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut en parler. Cette option va plus loin que la précédente. C'est plus tellement d'être simplement un bon chrétien qui rayonne, qui apporte le témoignage de sa vie transformée. Mais c'est une option qui se fonde sur la souveraineté de Dieu, sur la société tout entière. C'est Dieu qui est maître de l'univers, pas seulement maître des chrétiens, pas seulement le chef, Jésus-Christ chef de l'Église, mais Dieu a créé le monde entier. Et tout lui appartient, et il domine sur tout. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. 1 Corinthiens 10, 26. Ainsi, Jésus-Christ peut être considéré comme le souverain maître et législateur de nos cités. La loi divine définit la manière immuable de l'ordre éthique, ou définit de manière immuable l'ordre éthique. Cette loi est donc applicable à toute la nature, à tous les domaines de la vie, tant personnel que public. Et cela implique une doctrine sociale, politique, chrétienne. Une doctrine sociale, politique, chrétienne. Vous avez bien entendu. C'est aussi la pensée de Calvin. C'est le titre que porte une de ses brochures, sauf erreur, du règne social de Jésus-Christ aujourd'hui. Pas du règne spirituel, mais du règne social de Jésus-Christ aujourd'hui. Et Jean-Marc Berthoux parle de restauration dans nos différents cantons. S'il habitait en France, il dirait de nos différents départements, ou de notre pays et de l'Europe en général, une restauration de l'ordre intellectuel, social, politique et moral de Dieu, le rétablissement de la primauté de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses lois sur les cœurs, les intelligences et les volontés de nos concitoyens. Mais cela ne reviendrait-il pas à vouloir rechristianiser et moraliser le peuple, sans qu'il y ait conversion des cœurs, sans qu'il y ait nouvelle naissance. Au point que cela pourrait paraître ou apparaître comme quelque peu utopique à certains. Et pourrait même paraître comme une sorte de post-millénarisme, comme s'il était possible d'établir le royaume de Dieu et une justice sociale avant que le Seigneur ne revienne. Voilà un problème que nous devons également examiner, je crois, et nous devons nous demander jusqu'à quel point est-il possible, dans notre monde laïque, dans notre monde sécularisé, d'introduire les lois divines pour le comportement du citoyen sur le plan social, intellectuel, civique, etc. Je crois que nous devons distinguer entre autorité et pouvoir. Je veux dire que l'Église ne peut pas représenter, ou ne peut que représenter, si vous voulez, une autorité, et non pas un pouvoir, dans le sens où on entend pouvoir généralement. Christ et les chrétiens n'ont pas exercé de pouvoir, si vous voulez, pour mieux me faire comprendre, mais ils ont exercé une autorité. Ce que Jésus-Christ dit, ce que les apôtres ont dit, ce que la Bible dit, représente une autorité. Je pense donc, et je puis me tromper, que l'éthique chrétienne est, dans le meilleur des cas, la conscience de la politique. Elle est la conscience de la politique. Et nous avons dit, en parlant de la conscience individuelle, qu'elle est comme quelqu'un qui vit en nous, avec nous, comme un juge qui est là, qui peut prononcer un verdict, mais qui n'a pas de pouvoir pour changer. C'est le verdict qui est là. C'est l'autorité et pas le pouvoir. L'Église peut rappeler les principes universels de la morale, mais elle n'a pas le pouvoir pour les appliquer, voire les imposer au monde. Alors ce que je dis, je me refuse d'être absolu. J'aimerais qu'on y revienne pour que nous cherchions ensemble un peu plus de clarté quant à savoir si vraiment il est possible, il est souhaitable, il est bibliquement vrai que nous devons chercher à établir un règne social de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre monde. Je vais terminer en disant encore quelques mots sur l'aspect prophétique. Sans faire de la prophétie. Je veux dire que le monde gît sous la puissance du malin. 1 Jean 5,19. Et je le dis, et je ne me contredis pas, et je ne contredis pas ce que dit l'Écriture par ailleurs quant à la souveraineté de Dieu. Je le dis parce que Jean l'écrit, et il y a quelque chose de vrai, certainement, quant à ce pouvoir de l'ennemi, qui bien entendu n'est pas comparable au pouvoir divin, un pouvoir de l'ennemi qui sera complètement anéanti quand le Seigneur le voudra. Et quand les hommes, dit la parole de Dieu, diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. C'est-à-dire que les hommes vont essayer d'établir, eux, leur paix et leur sûreté, leur royaume. Mais quand ils croiront y être à peu près parvenus, une ruine soudaine les surprendra, car Dieu est et demeure souverain. Mais en attendant, ce Dieu souverain permet à l'iniquité, à l'anomia, cette illégalité, comme d'autres l'ont traduit, d'augmenter. Et c'est là que je vois une difficulté par rapport à l'établissement d'un royaume de Dieu et d'un ordre nouveau, social et intellectuel et politique divin, je vois une difficulté par rapport à ce que dit l'Écriture quant à la fin des temps, quand elle parle de l'iniquité qui augmentera et de l'amour qui diminuera. L'homme de l'iniquité paraîtra, 2 Thessaloniciens 2:3,
L'homme sans la loi, c'est un homme anarchique. La grande Babylone, les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche, les deux bêtes, je ne discute pas maintenant le genre littéraire, que c'est ce qui nous est dit dans ce livre de l'Apocalypse, mais au milieu de tout cela, je vois la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 13, 10. Je vois les témoins de Jésus-Christ. Je vois que rien ne semble annoncer une restauration d'un règne ou d'un ordre moral, intellectuel, social, politique, divin, avant le retour de Jésus-Christ. Je vois le mal progresser vers la fin et les deux camps se préciser, au point qu'il nous est dit dans l'Apocalypse 22, 11 que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il semblerait qu'il y aura une progression parallèle dans le bien pour ceux qui sont vraiment les rachetés du Seigneur et dans le mal pour ceux qui se trouvent sur l'autre chemin. Et enfin, il y a cet Amen, viens Seigneur, et la réponse du Seigneur, oui, je viens bientôt. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, Galates 6, 16. Cette règle, littéralement ce canon. Canon, c'est un cordeau, c'est une règle, c'est une mesure que Dieu nous a donnée. Et je crois que nous pouvons parler d'une règle éthique que Dieu nous a donnée dans la parole de Dieu. Nous pouvons mesurer, nous pouvons contrôler, vérifier notre comportement, malgré les difficultés que nous éprouvons parfois, comme nos échanges le font, me semble-t-il, amplement apparaître. Nous devons ensemble prier. Nous devons ensemble, honnêtement, chercher à mieux comprendre la parole de Dieu avec des règles d'interprétation qu'on nous a données, que notre frère nous a données, afin de comprendre notre temps et de comprendre la volonté de Dieu et d'apprendre à vivre dans ce temps. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous devons nous conduire dans le monde avec sainteté et pureté. Nous devons vivre dans la société et dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2:12. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4:2. Nous devons avoir comme but de former des chrétiens aux convictions personnelles solides, résistant aux influences du monde et aux compromissions. White, dans son livre, a dit que le laxisme et la compromission sont des bombes à retardement dans la vie chrétienne. Le mal ne se voit pas tout de suite immédiatement, mais on le reçoit et il fait son œuvre. Et un jour, ces bombes éclateront. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je termine là pour respecter l'heure. Je regrette un peu que nous n'ayons pas pu aborder d'autres sujets, car il me semble qu'il est apparu que dans d'autres domaines, il y aurait encore beaucoup à dire. Sur le plan de l'éthique médicale, on n'a pas parlé de l'euthanasie, on n'a pas parlé de l'acharnement thérapeutique, on n'a pas parlé de certaines choses qui auraient leur importance, je crois. Mais notre temps était certainement trop limité, et je crains d'ailleurs que nous ayons déjà abordé que trop de problèmes. La preuve, c'est que dans nos échanges, nous n'arrivons pas à reprendre tout ce que nous avons
effleurée, et que par conséquent, je crois qu'il y avait déjà pas mal de sujets qui ont été abordés, peut-être parfois traités, j'espère pas trop maltraités par moi. Merci. Merci à vous.